Libre Radio à Châteaubriant. Du 4 au 15 juillet sur la place éponyme, des choses indistinctes, menées par des gens improbables, faites de contenus imprévisibles. L'anti-programme sur www.libradio.org.
Voilà, donc nous, on va chuchoter, enfin parler doucement en tout cas. Donc nous sommes toujours sur le site du festival Châteaubriant pour la soirée de clôture de ce festival, dans les conditions du direct et en compagnie de Chloé et de Gérard qui êtes là pour nous parler de votre visite.
On vient avec la casquette Marina Leda, là.
Voilà.
Visite intense, du village utopiste.
Complète, voilà, du village utopiste de Marina Leda qui se situe.
Pas loin de Malaga, en fait,
pas loin de
plus
Malaga.
Près de Malaga que de Côte Séville.
D'accord.
Mais en Andalousie, quoi, en Espagne, sud de l'Espagne.
C'est au centre de l'Andalousie, c'est tout près de c'est relativement près de Séville, de Malaga,
de Cordoba.
Est-ce que c'est un de ces villages tout blancs que l'on rêve un peu dans nos esprits
Alors, en partie, disons que il est pas aussi, comment on pourrait dire,
avec ses bâtisses un petit peu hacienda un peu en blanc. Non,
c'est des petits immeubles. Non, c'est des maisons, disons, c'est des maisons mais avec deux étages.
D'accord.
Et c'est pas aussi charmant qu'on aurait pu l'imaginer au départ.
D'accord.
Mais c'est surtout sur le principe de fonctionnement que c'est vraiment
tout à fait. Non, là c'était pour nous donner une vision comme ça un petit peu d'accord. Alors c'est un village de approximativement 2700 habitants.
C'est ça.
Et qui a décidé effectivement de fonctionner différemment du commun des mortels, en tout cas. Alors, expliquez-nous, quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce qui a déjà motivé votre voyage
dans
cette direction ?
Ah oui, c'est important.
Oui.
Disons qu'on a un ami, José Rincon, que tu connais aussi,
oui.
Qui a son cousin et maire.
José.
Qui est son cousin qui s'appelle Antonio... je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais le retrouver.
Mm-hmm.
Novales, Nogares, je ne sais plus. On va regarder. Qui est maire donc de la petite ville qui est à côté de Marina Leda qui s'appelle Pedrera. Et puis il connaît le maire de Marina Leda, donc Juan Manuel Gordillo,
oui, tout à fait.
Qui va pas très bien d'ailleurs, il faudrait qu'on en parle un peu. Et donc ce monsieur, ce maire, Juan Manuel Gordillo, il y a 40 ans, il a décidé que, à la sortie du franquisme, il voulait que cette ville. Disons qu'il y avait beaucoup de misère, il voulait que les gens s'en sortent et il a eu l'idée d'essayer d'acquérir les terres, enfin pas d'acquérir les terres, de pouvoir jouir des terres et de pouvoir construire autant de maisons qu'il en fallait pour que tout le monde ait un toit, pour que tout le monde puisse se loger mais aussi se nourrir, avoir un salaire décent. Donc il a imaginé ce système avec plusieurs autres villageois et ils ont lutté contre les pouvoirs en place, disons, qui voulaient vendre les terres.
Un certain nombre de propriétaires aussi.
Et des propriétaires. Pour pouvoir jouir des terres, tout en ne les achetant pas, tout en payant une sorte de taxe, une sorte de loyer, mais assez bas dessus, pour ensuite en donner de la jouissance aux habitants, qui allaient pouvoir les occuper gratuitement. En fait, c'est la mairie qui prend en charge les taxes et les locations de terres. Mmh. Et ensuite... le loyer que des maisons qu'ils ont construites, parce qu'en fait, ils construisent ensemble les maisons.
J'ai compris que les architectes étaient mis à disposition gratuitement.
Alors, non seulement ça, mais les habitants des futures maisons mettent la main à la pâte.
Ah, très bien.
Et là, on a des photos, notamment de personnes qui sont les futurs habitants d'un morceau de 10 maisons, d'un pâté de 10 maisons. Et en fait, ils font tous les maisons de tout le monde et ils ne savent pas dans quelle maison ils vont habiter. Ils vont tirer au sort à la fin. Qui sera dans telle maison. Donc toutes les maisons sont faites au mieux parce qu'il n'y a pas de favoritisme. On n'a pas envie de faire mieux une maison que l'autre parce qu'on ne sait pas dans laquelle on va aller.
Ne sachant pas, voilà. C'est de la co-construction, c'est génial.
C'est ça.
D'accord. Dis-moi, alors qu'en est-il du travail et du salariat du coup? Parce que ces personnes qui fabriquent ça en co-construction, y a-t-il quand même un salaire ou est-ce qu'il y a là un salaire en nature ou comment est-ce que ça s'organise?
Alors en l'occurrence, pour les maisons, ils vont jouir de leur maison avec un loyer qui correspond plus ou moins à la taxe en fait, que le maire doit payer de entre 15 euros et 25 euros par mois.
D'accord.
Enfin voilà, donc c'est un loyer suisse divisé par 100, quoi. En fait, en gros. Hein.
Oui, 15 euros donc.
Voilà. Sachant qu'ils ont.
Pour de vrai.
Pour de vrai, c'est pas une blague, c'est pas.
Non, d'accord, c'est un paquet de cigarettes
avril.
En France bientôt.
C'est ça.
Deux paquets de cigarettes.
Ouais, allez, soyons généreux.
Pour deux paquets de clopes.
Deux paquets de clopes, tu te loges un mois.
T'arrêtes
dans
de
une
fumer.
Maison. Avec des petites maisons, on les a visitées.
Bah, elles sont là, ouais.
Donc il y a trois chambres. Non, attends.
Elles sont bien, hein. Elles sont,
oui, il y a trois chambres.
Il y a un étage.
Il y a un étage, donc les chambres sont à l'étage. Il y a une salle de bain, il y a un grand living, il y a une belle cuisine. Et je ne sais plus si j'en oublie, mais en tout cas, elles sont tout à fait habitables. Elles sont deux fois mon appart ou trois fois mon appart.
D'accord, donc, mais le logement, lui, reste relativement standard. Ce que je parle là, c'est qu'il n'y a pas d'espace communautaire. Ça n'est pas de ce côté-là qu'il y a des enjeux réellement.
Non, c'est vrai.
Alors,
c'est
il y a des endroits, genre le bar venir, syndical, mais... là où ils se réunissent.
Ouais.
Mais ça, c'est des infrastructures.
Disons, ouais, on posait des questions sur des choses comme ça. Je pense que quelque part, ça va peut-être. Il y a beaucoup de ces maisons qui ne sont pas encore habitées. Mm-hmm. Mais je pense qu'à un moment donné, quand ça sera habité, ils auront des besoins de
ah, vous, tu lieux pour les enfants. Par exemple, il n'y avait pas de
un jardin pour les enfants, quelque chose. Ouais, tout à fait. Ça manque un peu pour l'instant.
C'est vrai que pour l'instant, c'est des habitations qui ressemblent tout à fait à nos habitations, en plus grandes hein, quand même.
Ouais.
Mais ça ne fait pas du tout. Ni ghetto, ni communauté. Enfin, les gens vivent comme ici.
Ok. Est-il prévu un environnement particulier à ces maisons, un potager ou des espaces communs?
Alors déjà, ils ont
communs.
Un patio, d'accord. Tous, ouais. Qui est à peu près de la surface de la maison. Donc c'est assez grand.
Un bel espace, ouais.
Et ils peuvent en faire un garage, ils peuvent en faire un jardin, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent ensuite.
Donc c'est vraiment les habitants qui ensuite décident entre eux.
C'est ouais. Ça.
Ok. Quand on parlait de cela, au moment du début de cette émission, j'avais dit, et vous m'avez démenti, Chloé, tu m'as démenti, et j'ai parlé d'un village qui vit
autogéré.
En autogestion.
Alors,
depuis 40 ans.
C'est ce qu'on pensait aussi. Mais en fait, ils ont un produit phare qui est l'huile d'olive qu'ils produisent là-bas. Mm-hmm. Alors il y a une partie qui est, comme ils disent, écologique, en fait ça veut dire bio, hein. Mais écologico en espagnol ça veut dire bio,
ouais.
Et de l'huile d'olive qui n'est pas bio mais qui est récoltée uniquement à partir des olives qui font pousser eux. Donc ça c'est vraiment leur produit d'exportation qu'ils exportent dans le monde entier, hein. Mais ils font pas pousser, ils n'ont pas des champs, ils font pas de l'agriculture complètement autonome, ils continuent à s'approvisionner à l'extérieur. Et ils ont des produits bio, mais pas que. Alors là-dessus, on leur a bien d'ailleurs dit qu'il y avait une petite marge d'amélioration.
Oui.
Et on leur a suggéré de faire en sorte d'être autonome, en fait, alimentairement parlant.
Tout à fait. Ça a été un petit apport.
Ils étaient preneurs. Hein.
Parce que, ils écoutent beaucoup.
Ils sont très ouverts, et c'est ça qui est agréable.
Parce que justement, tout
et là, je parle du maire et je parle de l'équipe, ouais. L'équipe de gestion.
L'administration,
quoi.
Tout ça.
Tout à fait.
Voilà, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous vous êtes rendu là-bas et vous avez été, j'imagine, accueilli et on vous a, en totale transparence, en totale bienveillance, invité à participer un petit peu à tout ce qui s'y passait.
Tu crois pas si bien dire, enfin, tu sais plutôt de quoi tu parles, parce que quand on est arrivé, le jour de notre arrivée, on a eu une invitation à l'assemblée participative, non pas de Marina Leda, mais du village d'à côté de Pedrera,
oui.
Avec le maire. Et on était donc une vingtaine, une trente, ouais, même peut-être plus, 40-50 personnes avec des sièges dans une petite surface avec du sable. C'était super convivial, on aurait dit une fête, quoi.
Génial.
Et en fait, le maire, il faisait un PowerPoint sur les finances de la ville, comment ça marchait.
Il a fait le bilan de l'année.
Comme ça.
Et tous les coûts et ce qu'on devait aux banques, etc. Donc ça informe également sur le système bancaire, mm-hmm. Et sur les pressions qu'ils ont. Et ensuite, il y avait la parole au public. Enfin,
aussi une chose importante, ouais. C'est qu'en fait, c'est chaque conseiller qui a présenté son domaine.
D'accord.
L'un sur l'éducation, l'autre sur le sport.
Voilà, tout à fait. Et il y avait plusieurs femmes, hein, une majorité de femmes.
Ouais. Et puis ensuite, les citoyens pouvaient poser des questions ou proposer des choses. Et le maire était particulièrement super sympa.
Le système de décision, à ce moment-là, comment est-ce qu'il apparaît? Est-ce que les gens agréent ou expriment leur dissension par rapport à ce qui a été fait? Ou comment ça se passe?
Il y a eu relativement peu de débats, j'ai trouvé.
J'imagine que c'est fait en amont.
Pas beaucoup. Disons que c'était la première. Hein. C'est la première assemblée.
De Pedrera.
Donc peut-être qu'il n'a pas encore bien rodé son truc. Ouais,
mais c'est comme le vote a priori qui régit, disons, les rapports sociaux.
On n'a pas vu les votes, mais c'était plutôt des suggestions des citoyens. Mais c'est vrai que la place pour le débat, la place pour la partie non directive, enfin non comment représentative, enfin disons la partie qui n'était pas la conférence, la partie d'après, elle était un peu courte parce qu'en fait ils ont pris beaucoup de temps à expliquer tout ce qu'ils faisaient et les problèmes, etc., de finances, etc.
Ouais.
Et du coup après il y avait des gens qui sont un peu partis, ouais. Et puis il y a eu, je dirais, une demi-heure, une heure,
voilà,
ouais, une petite heure,
quelques suggestions de quelques-uns, je sais pas, du genre il faut valoriser les cours de natation, enfin,
ouais,
des choses comme ça, hein. Parce que tu as pu, bon, moi je comprends pas tout
ouais,
l'espagnol,
moi, je comprends un peu mieux
l'espagnol, et puis Chloé un peu mieux. Donc,
mais disons qu'on discutait aussi entre nous, donc on n'a pas été hyper assidus au niveau de l'attention.
Parce que je me demandais si effectivement c'était des, quand même
on
des...
froid aussi un peu.
Oui, parce qu'il me semble que le maire Gordillo se fait élire.
Alors là, on parlait de Pedrera. Donc
oui, pardon, c'est vrai,
c'est
excuse-moi.
C'est Antonio, le, je sais plus, il faut que je retrouve le nom.
Oui, excuse-moi, c'est moi qui me trompe.
Mais effectivement, mais, Gordillo,
voilà,
il
y a quand même un...
ils se font tous élire.
Voilà, ce sont des...
Il faut peut-être prendre compte à la fin.
Ce sont des élections et...
Attends, alors,
est-ce qu'il y a l'idée d'aller de dépasser peut-être même les élections? Parce que c'est vrai que pendant la guerre d'Espagne, hein, le camp républicain, on a vu des zones entières fonctionner au consensus. Et vraiment,
voilà.
Déjà, éviter carrément complètement la monnaie en brûlant les billets. Voilà, hein, c'est bah mythique,
c'est
ça. Hein,
c'est
en disant
ça.
On brûle ce qui a fait qu'on est pauvre.
Ouais.
Et puis vraiment une volonté de sortir même de la praxis du vote, alors, de ce paradigme-là.
Exactement. Alors ça, c'est complètement notre ligne, notre visée, notre vue. Antonio Nogales Monedero. Mais c'est Antonio Nogales, le maire de Pedrera. Ouais.
Antonio, je me le note, Nogales. Ouais. Comme ça, je ne me trompe plus. Pardon.
Et puis, on a même pris l'apéro après. Enfin, on a pu suggérer plein de choses. Et ils sont extrêmement à l'écoute.
Ouais.
Et on a l'impression, en fait, que c'est comme pour le courrier, qu'il y a une espèce d'équipe de coordination, mais qui ne sont pas des chefs, qu'ils sont là pour... qu'ils ont la charge, mais qu'ils n'ont pas forcément les honneurs. D'ailleurs, on a appris que les membres de l'administration, autant à, en tout cas à Marina Leda, n'avaient pas accès aux maisons aussi facilement que les habitants, qu'ils prenaient les dernières qui restaient, que notamment Gordillo habite chez sa copine, parce qu'il n'a pas de maison, simplement.
Excellent.
Donc ils ont moins de facilité, un salaire moindre, etc. Ouais. Donc c'est carrément une charge
supplémentaire et un sacerdoce.
Sans les avantages, quoi. Ouais.
C'est incroyable.
Ouais, c'est vraiment, ils font ça par conviction, par foi.
Ce qu'il y a de très beau dans les photos que Gérard égrène comme ça, c'est qu'on voit vraiment tout le monde dans un état de contentement tout à fait remarquable.
Il y a une bienveillance et il y a une sérénité.
Ouais, et puis on voit que déjà, tout est ouvert. On voit que ça invite à venir s'installer. Et puis alors, ce que je constate aussi, c'est qu'il n'y a pas une cravate. Est-ce que c'est la cravate
non,
qui rend fou?
Alors, je crois que la cravate, c'est une conséquence plutôt qu'une cause. Et que ça va avec, mais ça, c'est une espèce de...
Non, parce qu'on dit que c'est des fois
un sceptre, un statut.
Ah voilà, un sceptre, alors.
Ça établit, je sais pas quoi,
peut-être
c'est l'uniforme qui justifie.
La version freudienne pourrait dire de la cravate que c'est une sorte
de... Oui, c'est le phallus.
Voilà, exactement.
Extrapolé.
Voilà, un peu comme les gens qui ont des grosses voitures, et ben là, ils font une vraie démocratie avec peu de...
Avec aucun signe extérieur de richesse.
Exactement.
Et voir le contraire.
Dis-moi, on a dit, j'ai lu parmi les détracteurs, parce qu'il en existe, on imagine bien.
Mais oui, comme pour tous les bons projets.
Exactement.
C'est des saboteurs, sinon ce serait pas drôle.
Ce serait trop facile.
Exactement.
J'ai entendu dire que ces personnes-là, finalement, profitaient d'aide institutionnelle, d'aide de l'ayuntamiento, du gouvernement, etc. Et qu'en fait, finalement, leur truc, c'était plutôt un sponsoring de personnes plutôt oisives, plutôt qu'une vraie révolution.
Alors, en fait, c'est à peu près le contraire. C'est-à-dire que les subventions, je crois que toutes les habitations en Espagne en bénéficient, mais eux, ils ont les minimums des minimums. Enfin, les autorités andalouses et espagnoles essayent de les saboter, de casser leurs projets. Notamment, ils ont réglementé sur les panneaux solaires à Marina Leda. Parce qu'en fait, Marina Leda s'était dotée de panneaux solaires pour produire l'électricité et pour chauffer les maisons. Et on leur a dit non, vous n'avez pas le droit de produire l'électricité avec les panneaux solaires. Vous avez à la limite droit pour les maisons, mais pour l'eau chaude, mais dans une certaine mesure et pas trop. Parce que sinon, ça va couler notre entreprise privée d'électricité.
Oui.
Tu comprends?
Oui.
Donc, et là, actuellement, ils sont par exemple, je crois que c'est la région andalouse, parle de racheter, de vendre les terres qui sont actuellement en jouissance à Marina Leda à des privés. Donc menace en fait les gens qui habitent d'être expulsés.
D'expropriation.
Donc là, le combat actuel qui va devoir se mener à partir de maintenant, d'ailleurs ils nous en ont parlé quand on est arrivé, c'est qu'il va falloir de nouveau s'opposer à cette manœuvre de privatisation des terres pour garder une jouissance et à la limite pas y payer des taxes encore dessus, mais pour louer la terre et pas pour qu'elle passe en main privée.
C'est incroyable.
Mais c'est un combat de tout le temps, en fait.
Absolument. Bah alors ça, on va continuer de le relayer, j'espère bien, et on suivra les actualités. Je me demandais comment s'est faite la transition 40 ans en arrière, ou en tout cas au moment où le village est passé de ce côté-là. Est-ce qu'il y a eu une transition douce? Est-ce que c'était assez...
Ça a été violent, d'après ce qu'on a compris.
Voilà, parce que j'imagine qu'à un moment donné, sachant que le franquisme a encore des résurgences autoritaires dans certaines régions, Je me suis dit qu'ils ont dû arracher ce truc.
On a eu un témoignage d'un des gars qui disait qu'il avait peur pour sa vie. Il y avait une histoire de voiture qui avait foncé ou bien de moto, je ne sais plus.
Qui avait failli le renverser. D'ailleurs, Gordillon, il a eu trois tentatives de meurtre contre lui.
Ouais, carrément.
Ouais, il y a même une balle qui est passée juste derrière lui. Il était dans une voiture et heureusement, il était juste un peu avancé sur son siège. Donc la balle, elle est passée derrière
lui. Donc il aurait pu mourir.
Il a failli mourir trois fois.
Ça a été revendiqué ou ça a fait au moins un petit buzz médiatique ou même
non,
pas?
Non, les médias, ils étouffent ça. Parce que on veut le dégoupiller. D'ailleurs, il est malade actuellement. Moi, j'ai des doutes sur les sources de sa maladie.
Malade comment? À quel degré?
Alors, je sais pas ce qu'il a, mais on l'a vu.
À dire, il a l'air très fatigué.
Il est transparent, blanc comme un linge. Je veux dire transparent, transpirant, blanc comme un linge. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui était vraiment...
Qui était en train de se ronger.
Qui le prenait partout, quoi.
Ouais, d'accord.
Et ça fait quelques mois, c'est... voire un an, qu'il est mal. Donc,
ouais. Et on ne sait pas pour le moment,
pour
en tout cas.
Pour l'instant, on
ne
sait pas.
Ok. Bon.
Mais en tout cas, pour revenir à la, à l'époque, enfin au moment en sortant du franquisme, dans ce qu'on nous a dit, en fait j'ai dit violent, mais c'est dans le sens qu'il y avait une forte opposition de la part des gens du village, mais il n'y a jamais eu de violence émanant du village. C'est-à-dire qu'ils ont été déterminés, ils ont été présents, ils ont occupé des usines, ils ont bloqué des routes, ils ont été à plusieurs sites, je ne sais plus exactement lesquels, mais où on leur disait dégagez, dégagez, puis en fait ils allaient jusqu'au bout de là où ils pouvaient aller. À partir du moment où ils étaient menacés de mort, ils s'en allaient. Puis ils revenaient le lendemain, à la limite. Oui. Mais ils étaient vraiment, tu sais, dans une démarche longue d'usure.
Et une détermination, vraiment.
Quels ont été les premiers éléments, les éléments clés, les éléments symboliques qui ont fait que, qui indiquaient ce passage à autre chose? Typiquement, ce que j'avais lu par ailleurs, c'était qu'on avait enlevé la couronne de l'héraldique, enfin des armoiries de la commune. Parce que ça, symboliquement, c'est très fort en Espagne.
Parce
qu'on a souvent le club de foot qui s'appelle le Real, quoi, quelque chose. Et là-bas, ils ont dit, on va parmi les mesures symboliques, voilà, c'est qu'on vire ça.
Alors, c'est vrai que quand on entre dans le bureau du maire,
alors ça, c'est aussi
c'est
un moment d'anthologie.
Incroyable.
Parce qu'il n'a pas mis justement la photo du roi, et donc il se met à dos tout le monde, mais il s'en fiche, il y va comme ça.
Il a un très beau tableau.
Fruit Gaza.
Non,
je te jure, là, c'était notre pote à tout jamais.
Et puis, le Che Guevara à peu près
le
partout.
Le Che comme,
oui, parce que ça, je vois,
comme icône partout.
Salle polyvalente de Marina Nela, ornée avec le portrait d'Ernesto El Che.
Exactement.
C'est cool.
Donc lui, il met un point d'honneur à pas mettre en avant des figures oppressives et monarchiques. Ouais. Et
les
au
noms
contraire,
est-ce que les noms des rues?
Alors il y a l'avenue de la Liberté là.
Ah, magnifique.
Les autres, je me souviens plus des noms, mais par contre, il y a toute une avenue, l'artère principale, que j'ai photographiée à plusieurs reprises où il y a des messages dont tu as vu un extrait. Il y a le
magnifique
Alors,
Morales.
Attends, faut qu'on retrouve les photos parce que là, mon téléphone il a plus.
Voilà,
pas
voilà. On a Utopia assis à la passe.
Mais attends,
y a
t'as les photos du mur.
Et puis,
Une peinture qui dit en espagnol éteins ta télé, apaga la télé et enciende las mentes, je crois, las mentes, je sais pas quoi, le cerveau en fait, allume ton cerveau.
Excellent. Dis-moi, on dit je sais pas si c'est le cas pour où vous étiez, mais en tout cas à Marina Leda, que la police n'existe plus.
Alors nous on en a pas vu.
D'accord.
Jamais.
Qu'en est-il?
Et c'est vrai qu'on n'a pas posé la question, mais il me semblait que j'avais lu ça aussi.
Ouais. Qu'en est-il
On nous
pardon,
a dit
Gérard.
Ça. Ouais. Moi, j'ai entendu ça aussi.
Mais c'est vrai qu'il y avait zéro flic. On est resté trois jours non-stop. On n'a vu personne.
Et on n'a pas l'impression d'être en insécurité?
Au contraire. On a l'impression d'être en vacances. Bon, on est en vacances, en l'occurrence.
Non, mais parce que tu vois, souvent, on dit, tu vois, la police, elle n'est pas là.
Non.
Et il faut savoir qu'il y a une expérience qu'on a relatée et qu'on va continuer de relater à Chicago, où un quartier se passe aussi de la police. Alors, en tout cas... La police, on ne la voit pas. La délinquance, a priori, il n'y en a pas trop non plus.
A priori, il n'y en a pas du tout.
Ouais.
Et puis, quand on croise des gens dans la rue, ils font un sourire, ils disent bonjour, ils disent comment ça va.
Donc, ça a l'air plutôt d'aller bien.
C'est assez étrange, d'ailleurs.
Mais dis-moi, est-ce qu'il y avait
Moi,
pas...
j'adore.
C'est clair. Alors, on a parlé de la transition, de la manière dont elle s'était faite. N'y a-t-il pas eu, et y a-t-il peut-être encore maintenant, un effet de contagion des villages avoisinants, disons.
Justement, c'est exactement ça qu'on disait. Pedrera entre autres, mais on a participé à une assemblée participative, enfin pas participative, une assemblée des maires où il y avait je sais pas combien de maires, mais au moins trois en tout cas.
Des maires,
il y avait pas que les maires, il y avait aussi les.
Il y avait des adjoints,
l'administration finalement.
Voilà.
D'accord.
Et ils étaient tous sur le même modèle. En fait, ils étaient dans la participation. En tout cas, au niveau décisionnel, c'est participatif à fond.
Mais alors ça se compte. Donc il y a un effet.
Il
n'y
a pas de vote. En fait, il n'y a même pas de vote. Il y a, le consensus unanime en fait.
Qu'en est-il des médias régionaux, locaux, régionaux,
alors,
et nationaux?
Alors ils ont une télé locale et une radio locale et je ne sais pas s'ils ont un journal local. Ça, je ne sais plus.
Mais en tout cas, ils sont sensibles au fait que parmi les enjeux de l'autogestion, enfin de l'autogestion,
il y a l'information libre. A,
exactement. Donc ça, c'est pour nous également intéressant.
Il y a un message d'ailleurs, là, je suis en train de regarder les photos des murs. Il y en avait un où c'était marqué en français: ne vivons plus comme des esclaves.
Oh, si, c'est
j'ai
pas
beaucoup
magnifique.
Apprécié.
Ouais, ouais, ouais. Donc le clin d'œil, on va le dire pour toutes et tous, hein, au documentaire de Yanis Yiluntas.
Il y avait Viva la Velo Rusion.
La Velo Rusion,
avec un
très
petit
bien.
Vélo. Ouais. Il y avait Brigada de hasta la Victoria Siempre de Grecia, donc de Grèce.
Ah,
il y avait Soberania, donc c'est la souveraineté socialismo, avec le peuple qui agite les drapeaux. Enfin, il y a vraiment des belles images. Voilà, c'est Apagar la TV, Enciende tu mente.
Ah, c'est bien.
C'est
allume
beau,
ton
hein.
âme, allume ton esprit quand tu éteins ta télé.
Vas-y, lis-le en espagnol, Gérard. Petit exercice.
Oh là là. Contra el capital, guerra social.
Guerra sociale. Je pense que tout le monde
comprend.
Donc ça, c'est les murs de la ville.
Ouais,
quoi.
Ouais. Et donc, c'est des fresques murales, hein, ce qu'on appelle des murales, qui
c'est
sont
ça.
Juste
ah, il y en a un autre que j'adore aussi. El paro me accelera. En fait, me accelera. Il y a un double sens. Paro, ça veut dire chômage et ça veut dire aussi l'arrêt.
Ouais.
Donc l'arrêt m'accélère ou le chômage m'accélère.
Ouais.
Et en fait, ça me fait rebondir sur le départ donc, de cette utopie. Comme je disais au tout début, c'est parti sur une misère tellement énorme des habitants qu'ils ont dû réfléchir à une alternative.
Ouais, c'est
et
ça.
C'est de là que c'est né.
C'est ça. Et on s'aperçoit
que... Il faut
que...
toucher le fond parfois.
Ouais, ouais, ouais. Alors, ce qui est terrible là-dedans, c'est que ça implique beaucoup, moult, maintes souffrances.
Ouais.
Et ça nous fait tout le temps... C'est très regrettable.
Mais si après, elle ne dure pas trop longtemps, puis qu'on va sur autre chose après...
Absolument. Et puis, il s'agit de nouveau de rappeler les compétences et la durabilité et la vivabilité de ces projets-là que l'on nous démolit, que l'on disqualifie.
C'est ça. Qu'on dépeint
disant,
comme impossible,
exactement,
irréaliste ouais. ou autre
alors que là, il y a 40 ans derrière.
Qualificatif absurde.
Ouais. Oui, ouais. Et c'est, la durée, elle est impressionnante pour moi.
C'est ça.
C'est
incroyable.
C'est que ce n'est pas... Parce que des projets comme ça, on en voit des fois sur 2-3 ans, mais, ou même sur 6 mois, mais autant d'années.
Mais surtout, ce n'est pas médiatisé. Parce que si ça se savait qu'un modèle comme ça peut durer au moins 40 ans, alors on pourrait s'en inspirer. Ce serait dangereux.
C'est clair.
Pour le capital.
C'est clair. Qu'en est-il des rapports sociaux là-bas? Je veux dire, des problèmes comme des problématiques terribles que l'on connaît ici, comme le sexisme, le machisme, les violences de genre.
Alors, j'ai un exemple assez emblématique, si tu veux qu'on en parle. Ça, c'était le bémol, disons, du séjour, pour moi, en tout cas. Bon, c'est une petite chose, vous allez dire. Hein. C'est, enfin, je vous laisserai juger. Donc, le dernier jour, on visite l'usine d'huile d'olive.
Mmh.
Voilà. Et on est reçu très chaleureusement par, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gars qui gère ça, qui était au conseil municipal au début de Marina Leda et qui est maintenant responsable de l'usine, qui est coordinateur.
Oui, elle est impressionnante, cette usine. Hein. Je veux dire, il y a des fûts de 50 000 litres, il y en a je ne sais pas combien.
Wow. On a 18, je crois.
Ouais,
c'est pas le petit machin, le petit boudouille.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Et donc, on s'assied à la table, il nous invite pour le petit-déj. Mmh. Donc il nous donne du fromage, du chorizo, du café, du thé, etc., du pain. Très très bien.
Et même un vin que j'ai goûté,
ah,
mais
j'ai
il était vraiment un petit peu spécial.
J'ai pas goûté le vin,
quoi.
Moi. C'est vrai. Ah oui, t'es trop fort.
Par spécial, tu entends quoi?
Bah, c'est-à-dire que c'était vraiment une piquette
un de
du coin, quoi.
D'accord.
Ah ouais, c'était pas bon.
Ouais, c'est pas bon.
J'ai rien loupé. Ok. Alors justement, et je tourne ma tête un quart de tour à gauche, et qu'est-ce que je vois sur le mur? Je vois une espèce de calendrier avec des femmes nues.
Ok.
Alors je me suis dit bon. Comment ça
que
va se passer
ouais.
Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Léger malaise dans mon intérieur. J'en parle à Gérard, j'en parle pas trop à José. Et puis bon, passons. Pour l'instant, c'était un petit peu, ça posait un peu problème au niveau du féminisme, de l'égalité homme-femme, etc. Puis du statut de la femme surtout, parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, ça porte atteinte à la vision que les hommes peuvent avoir des femmes. Et puis ensuite, ils croient que c'est open bar, etc.
Absolument.
Moi, c'est un peu ça la dérive.
Ça provoque des représentations chez les plus jeunes, d'ailleurs. Voilà,
qui ont des conséquences.
Bah, bien sûr.
Et donc, alors ensuite, vient le moment de la visite des bureaux dans l'usine. Et là, qu'est-ce qui se passe? On ouvre une porte et il y a de nouveau des nanas dans des positions un peu lascives cette fois. Donc là, c'était pas suggestif dans le premier calendrier. Puis ensuite, dans les images qu'on a vues, elle te regardait un petit peu, tu vois, en demi-teinte.
Ouais. Ah, c'est qui? C'est Violon d'Ingres, hein, c'est Ingres, le peintre. dont on a fait ensuite le mot violon, parce que c'était...
Alors, je ne sais point,
c'est censé être la musique là, qui nous arrive.
Il peignait justement des jeunes adolescentes là, dans des postures lascives.
Alors là, ce n'était pas de la peinture, c'était des vraies photos.
D'accord.
Et là, j'ai dit, bon, là, il faut que je dise quelque chose, au moins exprimer mon malaise, dire mon avis dessus. Et j'ai demandé à José de traduire, alors qu'en fait, j'aurais très bien pu le faire moi-même, j'avais pas assez confiance en moi. Et en fait, au lieu de traduire, il m'a dit de me taire. Alors là, j'ai apprécié moyennement. Et alors, en fait, la raison qu'on a comprise ensuite, c'était que José, il fallait que, comme on était des invités, il fallait pas s'opposer à quoi que ce soit dans le cadre de cette visite. Et moi, je trouvais important de donner cet avis. Après, il en faisait ce qu'il en voulait. Mais
d'autant plus qu'on ne sait pas. Alors, peut-être qu'il y avait des raisons cachées. Bon,
toujours est-il que le gars s'en est rendu compte.
Alors, en fait, j'ai expliqué ensuite avec mon espagnol.
Voilà, que Chloé a expliqué directement avec son espagnol. Et puis, à un moment donné, j'ai dit aussi ma position, qui était ça pose problème par rapport à l'image de la femme. Moi, ça me retombe dessus aussi, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, j'ai acquiescé et puis j'ai même ajouté mon petit élément là-dedans. Et c'est Chloé qui a traduit. Hein, c'est comme
ça. J'ai traduit parce qu'en fait, José faisait le veto de la traduction. Dommage. Alors bon, du coup, ça fait quand même un clash entre nous. Mais moi, ça ne me donne pas... Ça balaye pas le projet, si tu veux.
Non.
C'est une dérive qu'on trouve partout.
Oui.
Et que je voulais souligner. Mais ça ne remet pas en cause le modèle de démocratie, etc.
Nous tous, dans les milieux libertaires, anarchistes, heureusement qu'on essaie toujours de faire autocritique, parce que des fois, on se trompe.
Évidemment.
On baigne dans des millénaires de machisme crasse. Et il y a des moments où, effectivement,
Le gars n'a pas pris ça si mal.
Il a même fait presque un mea culpa.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des raisons que l'on ne connaît pas, que la personne va être la première à admettre.
C'est ça. Enfin, c'est pour ça que pour moi, il faut en parler, quoi. Puis on peut discuter ensuite.
C'est dommage. Il va falloir y retourner.
C'est ça.
Non, mais
je crois que...
Alors moi, j'ai un deuxième exemple par rapport à la question des femmes. Dans la réunion des maires et des adjoints et de tout ce monde, il y avait une majorité de femmes. Et ça, alors je le souligne, ça c'est bien.
Ben oui.
Mais en fait, presque jusqu'au bout, seulement des hommes sont intervenus. Et tout à la fin, une femme est intervenue et du reste, elle a eu un pouvoir assez important.
Alors au départ, parce que je sais que le maire qui tenait l'Assemblée était contre son idée de parlementer avec un gars qui posait problème. C'était son idée et nous, on a appuyé la demande. Moi, je crois qu'on a quand même une petite influence. Du coup, il a changé d'avis et elle a aussi été tenace. Elle a continué à insister pour que sa solution soit envisagée. Finalement, elle a eu gain de cause. Mais elle a eu le courage de prendre la parole et c'est vrai que c'était la seule.
D'accord. Mais la figure des femmes, la figure féminine, est-elle, selon vous, mise un peu au banc, un peu disqualifiée parce qu'il y a quand même une expression...
Il y a peut-être un travail là autour qui n'est pas fini.
Oui, mais je pense que les femmes ont un rôle à jouer là-dedans.
Oui.
Je pense qu'il y a une autocensure. Moi, c'est ça que je vois.
Oui, mais tu vois comme il y a quand même une tradition. Dans les côtés autogestionnaires en Espagne, on ne va pas citer la pasionaria Dolores Ibaruri qui prenait la parole et puis qui ne fallait pas déconner non plus. Il y a quand même, même iconographiquement parlant, il y a des figures tutélaires comme ça, féminines en Espagne,
tout
j'ai l'impression.
Ouais.
Et ça, là où vous étiez, dans le village, vous avez perçu...
Moi, j'ai
quand
trouvé
même...
que tout le monde était très humble, beaucoup plus humble que la moyenne des gens que je connais, autant hommes que femmes, et que... personne ne se mettait en avant.
Ouais.
Et dans cette réunion, il y avait quand même quelqu'un qui se mettait en avant, c'était le meneur de séance, qui était un
maire
de chez Pékelville.
Qui a pris le 80-90% de la parole.
Le monopole de la parole, pratiquement.
Quand ça se passe comme ça, est-ce qu'il y a des personnes ou des outils pour dire, attention, on n'est pas dans ce qu'on appelle...
On ne sait pas, peut-être. On ne l'a pas vu.
Okay.
Mais
disons
je pense que...
Ça n'a pas été jugé par les autres. On avait l'impression de quelque chose de très bienveillant entre eux.
C'est ça.
D'accord.
Je pense que si quelqu'un était intervenu, il aurait été entendu et ça aurait changé les choses. Il n'y avait pas de... Ok, il prenait la parole,
mais c'était pas un
envahissement. Tyrannique ou autoritaire.
Ouais. Très bien. Parce qu'on le sait dans les réunions publiques que des personnes s'interdisent de prendre la parole parce qu'il y a tout d'un coup une espèce de force charismatique qui se débute de clair et que personne autour n'est là pour faire contre-pouvoir.
Ou alors on le fait puis on se fait tailler.
Exactement. Voilà. Donc ça, il n'y avait pas.
Vie.
Ouais. Mais alors ça, c'est bien parce que du coup, vous n'avez pas ressenti ce genre de choses. Bon, bah, ça, c'est, je trouve que c'est
ouais,
super.
Ouais. Ça, c'est aussi
très Est-ce qu'il important. Y a, on l'a dit tout à l'heure, donc il y a un phénomène de contagion. Oui. Y a-t-il un phénomène également de mise un peu en fédération, en disant, tiens, nous, on est un petit peu pareil, et puis que ça s'étende un petit peu. Je pense aussi à ça, parce que je sais qu'il y a des régions, notamment en Espagne, enfin, moi, c'est ma petite région préférée, mais en Euskadi, au Pays Basque, il y a des petits surgissements comme ça, assez tenaces quant à l'autogestion. Alors, je me demandais s'il y avait des liens qui se faisaient.
Alors,
un petit peu.
Et
y a non, bon, pour moi, les liens, ils sont presque nécessaires parce que on sent que ils ont à se défendre pour réussir leur
pour survivre avec ce modèle.
Ouais, il y a c'est quand même assez fort. Ça, moi, j'ai senti.
Oui, c'est vrai.
J'ai senti des. Ben là, on a parlé de l'énergie
solaire.
Mais il y a certainement beaucoup de détails du genre. Où ils ont à lutter contre le gouvernement fédéral.
D'accord. Donc, il y a quand même une posture défensive.
Ils sont en solidarité avec les villages voisins. Et ils se voient régulièrement. Hein.
D'accord.
Tous les maires se consultent, je crois, une fois tous les deux mois, en tout cas.
Ouais. À mon avis,
quelque chose de très rapproché.
Souvent.
Ouais, c'est possible. Ouais.
Justement, la question qui allait venir, c'était concernant la postérité des lieux. Selon vous, ces projets sont-ils tellement bien implantés, 40 ans maintenant, pour que l'on puisse dire d'eux qu'ils sont implantés
pérennes,
pour toujours, pérennes, voilà.
Moi, je dirais
ou
ça.
Est-ce qu'ils sont, comme vous venez de le dire un petit peu quand même, certains en tout cas, un peu en danger. Alors, ou qu'il faut être constamment attentif.
Les deux à la fois, c'est-à-dire pour moi. C'est-à-dire à la fois la longévité leur assure une certaine sûreté
crédibilité
et disons sûreté du long terme. Et puis en même temps, ils ont à lutter tous les jours.
D'accord.
Pour que ça soit possible.
Ce qu'on a eu comme exemple, comme préoccupation qui nous a été rapportée par la personne qui nous avait fait visiter, l'architecte en chef en fait, qui nous avait fait visiter les maisons, c'est que les jeunes actuels, donc les enfants des gens qui ont lutté, n'ont pas vécu cette lutte. Donc pour eux, c'est acquis. Et ils n'ont pas la verve, en tout cas apparemment,
ça, c'est énervant.
pour tenir bon dans ce modèle-là.
Ouais.
Ils se font un petit
Pourquoi
parce
que
ça.
Mais parce qu'en fait, ça a marché jusque-là. Et puis, c'est pas eux qui ont fait l'effort
qui ont
pour que ça soit possible.
Mais les aînés ne portent-ils pas également un bout de responsabilité dans le sens où, dans l'éducation. Enfin, moi, si j'avais des enfants, il ne serait pas question que cet enfant-là ne soit pas enragé, mais immédiatement, je suppose, parce que mon expérience de tous les jours fait que ça lui démontre...
Mais ton expérience, est-ce que c'est son expérience, tu vois?
Non, j'entends bien.
Eux, ils n'ont pas vécu...
Bien sûr.
Ils ont eu la maison, ils ont eu les facilités. J'ai oublié de le dire, mais ils ont un salaire là-bas qui est 50% plus élevé que la moyenne espagnole, je veux dire. Donc, ça paraît tellement facile.
C'est vrai que si on fait l'analogie, vous avez certainement entendu parler de ça, mais en Palestine... Il y a dans la jeunesse palestinienne des jeunes qui se détournent pas mal de la
lutte. Alors
moi j'ai entendu ça d'amis palestiniens vraiment qui disent ils en ont marre, ils en peuvent plus.
Ça, c'est ce qu'on
comprend les parents on est obligé de le comprendre parce qu'effectivement là on doit être humble et le premier moi parce que je devrais juste retirer ce que je viens de dire mais c'est vrai que on comprend. La force de se battre,
ça use.
C'est pour ça que les combats doivent être également.
Marina Leda, c'est pas le problème de se battre, c'est le problème de pas se battre justement.
Exactement.
Les deux opposés mènent au même résultat.
Alors ces enfants, vous situez là peut-être le problème de la postérité de ces projets-là, ça pourrait être là.
Ça peut être
le
maillon
faible. Et en même temps, moi il y avait une chose qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais beaucoup entendu parler du maire de Marina Leda. Je l'ai même vu à Genève. Il y a quelques années, je crois, je lui ai rappelé. Il y a eu un petit brin de lumière dans ses yeux.
Il n'était pas bien, de toute façon.
Oui, il n'était pas très bien. Mais en fait, je vois qu'autour de lui, il y a des personnes qui sont prêtes à reprendre le flambeau.
D'accord.
Et
bienveillante.
Oui, bienveillante et avec l'énergie.
Hein,
la femme qui nous a
qui nous a guidé, qui a répondu à nos questions.
Je pense que ça devait être
l'adjointe
ou comme ça.
Elle nous a fait visiter,
elle a répondu à des questions et puis elle avait la verbe, elle avait
envie,
la passion.
Oui.
D'accord. Dites-moi, vous étiez là-bas, avez-vous constaté qu'il y a quand même, comme à la ZAD à Nantes, un nombre de visiteurs conséquents qui viennent, visiteurs éclairés, je veux dire, pas des gens qui passent et puis qui prennent des photos,
pas
mais
des voyeurs.
Des gens qui viennent pour s'intéresser à la cause. Ça pourrait être des gens, pourquoi pas même un sociologue, un anthropologue, qui sait. Enfin, je veux dire, ça, est-ce qu'on le constate ou finalement...
Moi, j'ai pas vu de touristes. D'accord. À part nous. Peut-être qu'on n'a pas vu tout le monde non plus.
Non, mais on n'a pas vu. Mais je veux dire, on était quand même avec les personnes, les maires, tout ça. On aurait vu d'autres personnes. Je crois que c'est quand même relativement...
Mais ils accueillent volontiers, par contre. Ils nous ont dit que tous les gens qui veulent visiter, rester un moment, qu'on prête des maisons, quoi.
Carrément. Non, mais c'était vraiment super comme accueil.
Oui.
Et je dirais même, si vraiment il y avait des gens tous les trois jours, peut-être qu'on n'aurait pas le même accueil, je ne sais pas. Mais,
c'est vrai qu'on a eu un accueil privilégié.
C'était privilégié, quoi.
Mais comment vous expliquez que pas plus de monde? Parce que moi,
déjà, parce que c'est pas connu. Nous, on en D'accord. parle, mais quand j'en, ouais. moi, j'en ai parlé, okay. y a, presque tout le monde m'a dit « Ah, ben, je veux y aller, mais je ne connaissais pas. »
Parce qu'il y a quand même eu un film documentaire qui a été fait à ce propos.
Il est passé où, ce film? Moi, je ne l'avais pas vu, par exemple. Ah. Avant de m'intéresser vraiment à ce modèle, sans me renseigner sur Internet, je ne connaissais pas.
Alors, peut-être qu'il est plus connu dans les milieux autogestionnaires.
Peut-être.
C'est possible.
Je ne sais pas, je me pose la question. Ouais. Mais parce que c'est vrai que pour... typiquement pour moi, c'est la Mecque, quoi. Enfin, c'est
toi, tu connaissais avant?
Ah bah ouais, et depuis un moment.
Super. Ça fait deux ans que je connais.
Et non seulement... Mais j'ai évidemment vu le film, mais on s'intéresse et on a envie, voilà. Et puis justement, on se dit, il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de monde qui dévale là-bas, qui justement empiéterait sur le truc. Alors on se dit, on a envie de prendre des informations, mais de manière... Tu vois, parcimonieuse, avec beaucoup de délicatesse pour ne pas déranger
l'écosystème.
Biotope. Exactement, c'est exactement.
Mais d'ailleurs, ils ont une période de, c'est quoi, un an ou deux ans avant de pouvoir avoir une maison à Marina Leda. Il faut avoir logé, je crois que c'est deux ans, chez quelqu'un, à la limite, à Marina Leda, avoir été citoyen pendant deux ans, avant de pouvoir prétendre à avoir une maison qui se construit. Donc, il faut vraiment que les gens soient sûrs d'eux et qu'il n'y ait pas de, ce ne soit pas des profits, enfin, tu vois,
Est-ce qu'il y a une communauté étrangère à Marina Leda? Bon, il y a 2800 habitants, donc il peut y en avoir beaucoup, mais j'imagine.
Pas remarqué.
D'accord. Bon, mais bon, ce n'est pas un sujet. Mais je veux dire, concernant, y a-t-il un point de vue de Marina Leda concernant ce qu'on appelle la crise des migrants?
Oula, là, on a
Est-ce que c'est une discussion
vu.
Qui est qui
non.
a
mais moi je non. dirais même que parce que on a quand même, moi j'ai quand même posé des questions là à l'adjointe, j'avais demandé un petit peu est-ce qu'il y a des personnes qui viennent et puis que est-ce que vous avez un système qui permet d'accepter ou pas des nouveaux,
hein,
tu sais. Et puis elle a répondu que finalement ils n'avaient pas tellement ce problème, enfin en gros voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas connu, et ce n'est par exemple pas connu des migrants, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu se dire, bon...
Ce serait l'occasion.
Hein, oui. Après, c'est peut-être un lieu sympa, tout le monde est payé pareil.
C'est vrai que le salaire est le même.
Et le même, voilà, ça peut servir de modèle à plein de trucs. Et puis, il faut savoir que certaines personnes en exil ont repeuplé. Alors moi, ça, je peux parler pour l'Italie, donc certains cas très concrets, documentés, ça a sauvé des villages. Des villages à l'abandon en Italie, en sud de l'Italie, ont été vraiment, purement et simplement sauvés par l'arrivée d'une population qui avait en même temps envie de travailler, envie d'être là, et puis envie. Voilà.
Non, mais bon, on n'a non plus pas été partout. Hein. Il y avait un troupeau de chèvres là qui a traversé
la rue en plein milieu de la soirée, comme magnifique.
C'était magnifique. Alors, on ne sait pas qui s'occupe des chèvres, on n'a pas été loin du village. Bon.
Alors, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de les inviter ici pour qu'on parle avec eux ou de vous retourner là-bas?
Moi, je pense qu'on peut faire des convois par petits groupes
pour aller là-bas.
D'ici, de gens d'ici, pour aller là-bas.
Ouais.
Plutôt que de montrer le modèle Genevois, je pense que le modèle banquier, je ne suis pas sûre que ça leur apporte.
Je vais les inviter eux ici pour leur dire, regardez comme vous êtes bien où vous êtes.
Oui, ouais, peut-être alors.
Tu vois, dans le sens où, alors on dit de Genève qu'aussi et ça, attention, ville sociale et solidaire, bien, on pourrait dire, voilà, qu'ils mènent eux l'enquête et nous fassent un retour critique aussi sur la situation
Pourquoi
qu'on vit
pas.
Ici. Ça pourrait être drôle aussi. Mais...
Peut-être que les jeunes, on les amènerait ici pour voir ce qu'ils ont à perdre.
Bien vu.
Hein,
ça, c'est une bonne idée. Le stage obligatoire à Genève.
C'est ça.
Dans l'école de Marina, l'école du Tché ou de
Juan
Garcia Oliver, on parlait de lui hier. Parce que...
voilà. Il y avait une très belle fresque qui était un peu dans le style des dessins d'enfants, avec les cinq prisonniers cubains.
Attends, je vais te la montrer. Bon, ça passe pas à la radio, malheureusement. Mais...
Non, mais on peut la décrire. Est-ce que vous avez constaté d'autres singularités, typiquement dans les lieux publics ou des écoles, des pédagogies différentes ou des
manières?
Non, on
n'a pas vu, c'était en vacances.
C'est ça, c'est les vacances.
C'est vrai que je ne sais plus même s'ils sont dans les mêmes classes. Je veux dire, si différents âges se côtoient dans les mêmes classes, je ne me souviens plus si on a posé la question.
Voilà.
Ouais, et des manières d'envisager le mobilier urbain, ça, on constate quand même des différences?
Par exemple, c'est le mur de la mairie où il y a des photos du Tché partout et également les cinq Cubains.
Ouais.
Les prisonniers là.
Qui sont présentés. Attention, je vais éternuer.
Santé, Chloé. Ah, c'est
mince,
quand
c'est pas c'est venu. Quand... Ouais, ça viendra c'est après.
Ouais. Magnifique.
Ah, c'est magnifique.
Ouais.
Mais c'est comme ça partout, je veux dire. Après, sur les, le mobilier urbain, bon, c'est assez classique. Hein, je n'ai pas noté de trucs spéciaux.
Ouais.
À part les fameuses, les petites mosaïques avec le, l'effigie de Marina Leda avec la colombe, là, je crois.
Et puis avec toujours ce petit slogan.
Avec le slogan Utopia, Utopia hacia la paz. Donc utopie jusqu'à la paix.
C'est, ouais, non, c'est chouette.
Me dire que demander de plus. Hein.
Ouais, sans blague. Dis-moi, juste par curiosité, le climat. Il fait vraiment, parce que Séville, alors, c'est, Malaga, ça, c'est ça, des zones qui sont quand même, normalement, il fait vraiment chaud de chez chaud.
Alors, ça, c'est les fûts de
l'huile d'olive.
De l'huile d'olive, ouais. Il n'y en a que 8, mais il y en a encore 10 derrière. Bon, on ne les voit pas très bien, mais,
Mais on
ils sont à bloc, hein. C'est comme dans une...
Elle doit être en plus succulente, cette huile d'olive.
Ouais, on en a pris. Bah, malheureusement, moi, j'ai pas anticipé. J'ai pris des bidons. Ils les vendent par 2 litres ou 5 litres. Alors, 5 litres, ça faisait beaucoup. 2 litres, c'était déjà pas mal. Mais en fait, comme on prenait l'avion, il fallait pas les avoir en bagage à main.
On pourrait en importer pour faire du soutien.
Mais c'est ça. Et en fait, ils en importent partout. Et on a dit qu'on participerait probablement à...
On pourrait éventuellement...
L'importation de l'huile d'olive. C'est juste avant, tu nous posais une question. On n'a pas répondu.
Oui, concernant la chaleur.
Oui, c'est ça. Écoute, c'est comme partout.
Quand on est arrivé, il y a eu cette petite...
Ah non, il y avait
réunion,
de la brise.
Là.
Ah oui,
on avait froid.
Il faisait froid.
On avait froid.
Il faisait froid.
On avait froid.
On a eu du vent. Le premier soir, on avait froid. Moi, j'étais comme ça.
Ouais, mais froid, 25 degrés.
Froid à peut-être degrés. 20 degrés avec du vent.
D'accord, parce que moi là-bas, l'image que je m'en fais, c'est qu'il fait jamais en dessous de 30.
Alors écoute, ça va 30 à 60, j'ai jamais souffert de la chaleur.
Okay.
Et pourtant, moi je vis entre 20 et 25 degrés à mon stade optimal.
Ok.
Donc,
qu'en est-il des... également ? Alors j'aimerais juste qu'on revienne sur le. Parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais quant au salaire. Alors le salaire, le rapport au travail et quel type de travail. Quel type de travaux ont beaucoup cours là-bas ? Est-ce qu'on est beaucoup dans une économie du tertiaire quand même, ou justement pas, plutôt de l'agriculture ?
C'est plutôt le secondaire et le primaire.
Le primaire, voilà, c'est ce que j'imagine.
Vraiment, ils sont autour de l'huile d'olive. Alors, ils appellent ça c'est la coopérative en fait, l'usine. Hein ?
Ouais.
C'est une coopérative déjà, et ils disent on bosse à la coopérative.
D'accord.
Ouais. La plupart des gens bossent là-dedans.
Donc il faut produire l'huile, il faut la filtrer, il faut la transformer, puis ensuite il faut l'embouteiller,
la récolter, etc.
Ouais. Communiquer que cette bouteille existe, tout ça. Donc en fait, finalement, ça occupe beaucoup
les. C'est le travail principal là-bas. Sinon, il y a des personnes qui travaillent dans d'autres lieux, mais qui ne sont pas du tout à Marina Leda, du coup, donc ils ont d'autres salaires.
Ouais, d'accord.
Mais il y a soit les travaux d'administration, soit ça.
Alors, qu'en est-il du salaire ? C'est un salaire
aussi,
tu as dit
Pardon, il y a aussi des restaurants et des petites boutiques de nourriture ou autre.
Bien sûr.
Mais
disons vraiment, le principal secteur de travail, c'est vraiment autour de l'huile d'olive. Alors, quelles sont ces conditions de travail et quelles sont les conditions salariales ? Est-ce que tout le monde est syndiqué ? Comment ça se passe ?
Alors,
vous savez un petit
là,
peu ?
On a moins creusé la question. Je sais que
oui,
le salaire.
Mais alors, il y a une chose intéressante.
Plus de
par exemple,
euros.
La construction des maisons, là, avec les futurs habitants qui sont.
Tu veux que j'aille sur les maisons ou pas ?
Ouais,
moi, je vais sur ailleurs, je vais sur le salaire, moi. Je vais me renseigner sur le salaire.
Alors, sur la question de. Du salaire, certainement que c'est très égalitaire.
C'est pas certainement,
mais,
c'est sûr.
Il y a les personnes qui construisent leur maison, construisent le samedi et le dimanche aussi.
Mais
parce qu'ils sont très motivés.
En dehors de leurs heures de travail.
Et d'accord. Donc, en fait, ils ont des heures de travail assez énormes.
Oui, mais là, ils travaillent pour eux.
Librement consentis, bien entendu.
C'est ça.
Et tout, tout. Eh ben, dis donc,
et puis, ils sont beaucoup.
Aller.
Là, on était. Il y avait une équipe de 10 personnes. Qui travaillaient sur une maison. Quoi.
Ouais, alors, c'est pas très syndical, mais je veux dire.
Non, mais on entend bien.
Mais c'est eux qui le veulent.
C'est librement consenti, puis si c'est organisé.
Puis c'est pour eux. C'est pour le bien commun. Donc
absolument.
C'est pas pour les dividendes des actionnaires. Quoi.
Exactement, exactement. Et puis ce sont des travaux collectifs, si j'ai bien compris.
Exactement. Attends, j'essaie d'aller sur le.
Tu cherches pour le salaire.
Je cherche le salaire, je veux pas dire de bêtises.
Alors, d'ici là, comme on va arriver doucement au terme de l'entretien, je suis désolé, mais c'est vrai que...
Non, mais c'est bien.
C'est normal.
Juste, peut-être pourrais-tu...
Après 5 heures de radio
dire... Non, moi, ça va encore, mais...
On reste là.
Demain, on continue, on fait du non-stop.
Est-ce qu'on pourrait déjà, d'ores et déjà, donner un site internet où les personnes qui seraient intéressées d'en savoir un peu plus puissent aller récolter l'info. Bon, à part
écoute,
ça, moi, ça, je
alors, il y a
depuis...
moult sites sur Marina Leda, là, le premier, d'ailleurs, je suis dessus.
Alors, le site officiel, moi, je peux arriver, c'est... Parce que moi, je l'avais aussi, je me suis un petit peu préparé mon truc. Alors, il y a une page Wikipédia qui est fort intéressante, où on cite effectivement le maire...
Gordillo.
Juan Manuel Gordillo. Le site internet...
Entre 1100 et 1200 euros par mois.
Ça, c'est le salaire qui est égalitaire.
Mais pour moi, j'avais compris qu'il était égalitaire, alors...
D'accord.
Ça fait rare.
Bon, c'est dans une. Ouais, je pense abonnement qu'ils donnent une fourchette
la,
peut-être pour
la
le.
Piscine, 3 euros. Non, il me semblait que c'est. Mais bon. Hein, il nous a dit ça.
Oui, on a parlé de ça, mais j'ai pas pu vérifier à chaque.
Bah, et ça nous donnera l'occasion d'en reparler. Hein.
Et ben voilà, on y retourne.
Le site allez. Internet, c'est marilaneda.com.
47 euros par jour, pardon.
Ça, c'est le salaire.
Et, qui et est, 6h30 donc... de travail.
Ouais, ça, c'est génial. Non, mais c'est génial.
Au champ, si t'es au champ, c'est 6h30. Si t'es en usine, c'est 8h.
Voilà. Donc, il y a une distinction selon la pénibilité du travail également. Ouais. Bon, bah alors, on voit bien. Alors, la page wiki, franchement, est assez bien faite. Là, il parle de l'absence de police locale. Elle est franchement bien faite, la page. Il y a quelques photos sympas, le logement, voilà, tout ça. Donc, il suffit d'aller sur Wikipédia, de noter Marie Laneda, si jamais. Et puis, nous, on va de toute manière en reparler, tout ça, parce que j'imagine que vous allez y retourner.
C'est très possible.
Vous avez déjà calé ça ou en tout cas
non,
vous
avez... on n'a pas, on en vient là. On ouais, est revenu à Toulouse.
Attends, on part à l'Alter Village.
Ah oui, parce que là, voilà. On va dans le Morbihan participer à la construction d'un village, l'Alter Village.
Ça, c'est pas mal.
Pendant une semaine.
Ouais.
Et on va
ça,
se faire à manger, on va se faire nos maisons, on va se faire notre toilette, on va se faire tout.
Vous aurez Wikipédia ? Ouais. Vous aurez, pardon,
on aura peut-être du réseau avec un peu de chance.
Parce que si jamais, volontiers.
On reste en contact.
Ça va. Alors justement, pour en terminer, êtes-vous resté en contact avec les personnes de là-bas ?
Oui, alors notamment, on a le maire de Pedrera, on a mis Facebook maintenant.
Ah, génial.
Il s'est mis tout de suite avec
lui. Ah ouais, il a proposé tout de suite.
C'est lui qui a proposé.
Super. Donc
et
ça veut dire que...
Là, en tout cas, il y a un contact avec lui.
Ouais. Donc vous restez en alerte. Voilà, puis surtout, on reste en alerte sur ce qui s'y passe. Et effectivement, le
soutien potentiel. Donc s'il y a quelque chose, on te tient au courant.
Génial. Super.
Et puis juste pour info aussi, parce que moi, je me suis un peu renseignée après sur... l'existence de ces fameux villages soit autogérés, soit détachés de la propriété privée. En France, il y a en tout cas une centaine de communes, de villages qui sont créés autonomes et anticapitalistes comme sur le modèle de Marie Laneda. Et ça, je ne savais pas. Tu vois, de nouveau, les médias n'en parlent pas.
Non.
Donc, il y a plein de modèles qui existent.
On tient quelque chose de bien, là.
Ouais.
Il va falloir
suivre,
qu'on creuse.
À creuser.
Ouais, sans blague. Et à reproduire. Enfin,
et à reproduire.
À la sauce locale, tout ça.
Tout ça.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, Chloé et Gérard, pour la énième fois d'être venus.
Merci,
vous comptez des choses tellement intéressantes.
À bientôt,
c'est comme à chaque
pour
fois.
La suite de nos aventures.
Tout à fait.
Bien, merci à toi, parce que c'est...
Un plaisir.
C'est
vraiment.
Toujours,
big up
c'est toujours
pour
un plaisir.
Willy.
Non.
Pour Will et pour Sarah.
Voilà, parce
et pardon, pour Igor.
Là, c'est Sarah qui déguste ce soir.
Sarah,
moi,
je t'ai dévoilée. Je t'ai démasquée.
On va se laisser avec la musique de la Cora sur scène en cette fin de festival Châteaubriant dédiée aux associations solidaires en Gambie. Njaba Kunda, Swiss Gam Solidarity et Isroma avec leur projet de soutien scolaire en Côte d'Ivoire. C'était notre le sujet
principal
de ce festival, exactement.
Bah, bravo.
Bonne soirée et à bientôt.
À bientôt.
Ciao. Voilà, petit son, tout ça.